Locale,
culturelle,
indépendante,
étudiante,
musicale, Zaï Zaï Radio.
C'est le moment Actua BD et je suis avec Stéphane. Stéphane, alors rédacteur à papier nickelé, rédacteur à Actua BD. Bonjour Stéphane.
Bonjour tout le monde.
Et je suis avec également Julien Savès, journaliste pour Tonnerre de Bulle, qui est aussi partie prenante dans l'assaut Broken, organisateur d'un festival BD ciné à Paris, et avec Philippe Tomblaine, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc professeur documentaliste et vice-président de l'assaut du festival, auteur d'un livre sur les 50 ans du festival aux éditions PLG.
Exactement.
Merci Stéphane d'avoir rassemblé un aussi beau plateau pour nous parler de la thématique du jour, qui est eh bien BD, ciné, ciné, BD.
Voilà. Alors peut-être rappeler quelques éléments sur la question du passage du 7e art au 9e art, puisque bon, le cinéma, bon, on connaît bien l'histoire du cinéma, hein, la projection des frères Lumière à Paris, 1895, mais la question de la bande dessinée comme 9e art, c'est pas gagné. Alors notamment, on se pose la question, c'est quoi la première bande dessinée ? Ben, jusqu'à présent, effectivement, on avait, il y a deux grandes théories. Hein, il y a la théorie, effectivement, qui a été développée autour... Il y a Töpffer, qui est quand même... Thierry Smolderen, qui est un historien de la bande dessinée, a beaucoup été dans ce sens-là. C'est-à-dire que dire que Töpffer, qui aurait pu être peintre, qui avait des problèmes de vue, a fait... dans les années autour de 1827, l'histoire de Monsieur Jabot. Et c'est aujourd'hui la première bande dessinée reconnue. Avant, donc là on est en Suisse, et avant cette théorie-là, on pensait plutôt pour Yellow Kid de Outkow, qui est plutôt aux États-Unis, avec l'idée que dans Yellow Kid, on a les premières bulles. Voilà. Après, le fait que tous ces petits illustrés plutôt pour enfants soient reconnus, bah c'est dans les années 60. On a un monsieur qui s'appelle Claude Belli. Alors Claude Belli, il est rédacteur pour cinéma et il fait des articles sur le cinéma dans un magazine médical. Et c'est lui qui va prononcer pour la première fois l'idée du 9e art. Ça va être repris par Maurice, le père de Lucky Luke, dans la revue Spirou dans les années 60, avec une rubrique l'histoire du 9e art. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'avec un festival comme Angoulême, la multiplication des festivals, que la BD est reconnue comme un art, alors pas forcément contemporain, puisque malheureusement, les FRAC achètent peu de bandes dessinées, et que heureusement qu'il y a des musées, comme le Centre Belge de la Bande Dessinée, le musée d'Angoulême, pour archiver, et aussi le projet papier nickelé auquel je collabore avec Yves Frémion, c'est aussi l'idée de sauvegarder et de parler de toutes ces images du passé. Donc c'est très important de parler de tout ça. Voilà, alors moi je vais me tourner vers le festival représenté par Philippe Tomblaine. Philippe travaille beaucoup sur l'image et l'imagerie populaire aussi. Alors avant d'aborder le festival cette année, nous rappeler que Enki Bilal a fait une affiche qui est quand même culte sur une des premières éditions où il était question de cinéma. Alors Philippe, quelle était cette affiche ?
Alors, c'était pour la 15e édition, on était en 1988, et effectivement, Enki Bilal faisait une affiche assez surprenante pour illustrer le thème, à l'époque, bande et ciné, avec ciné au pluriel. Alors, souvenez-vous de cette affiche assez particulière, où on voyait un clone de Tintin, va-t-on dire, science-fictionnel comme il se doit, embrassé, tendre bouche par une fan, on va dire. Donc voilà, une image qui pouvait... fascinante et choquante à la fois en 1988. On pourrait se poser d'ailleurs la question de savoir si on pourrait, Bilal lui-même, s'il oserait refaire cette image en 2023-2024. Voilà, c'est une question à part.
Et donc le cinéma au Festival d'Angoulême, à part cette année-là, il y a toujours une place importante du cinéma dans le, je crois qu'il y a un quartier ciné-série, ouais. où est-ce qu'on en est dans le rapport justement entre le cinéma et la bande dessinée à Angoulême ?
Alors il y a eu évidemment des auteurs qui ont travaillé dans les deux secteurs. À Angoulême même, on a des partenariats avec des cinémas et notamment le CGR, c'est toujours au cœur de l'actualité. Tu évoquais le quartier BD ciné-série, ben, c'est le CGR d'Angoulême, qui est situé au 30 rue Saint-Roch, donc il y a toujours une programmation assez ample qui va de rétrospective en avant-première, en rencontre aussi avec des auteurs-réalisateurs. Je mets les deux mots côte-côte avec un tiret entre les deux. Si je dois citer qu'un seul exemple, aujourd'hui même, ce soir, 18h, on aura Quai d'Orsay, qui est rediffusé en présence de Christophe Blin pour parler du film. Donc l'occasion de revoir ce chef-d'œuvre en présence d'un auteur quand même pas des moindres. Et puis je peux aussi citer, puisque c'est aujourd'hui aussi, la projection de 3 épisodes d'Albator qui vont être présentés avec le réalisateur culte Rintaro, rien que ça. Rintaro, dont on peut aussi voir le livre et l'affiche où il raconte sa vie, ma vie en 24 images par seconde, par mémoire. Donc on va sans doute parler de cinéma, d'animation aussi. Parler d'Albator là.
Voilà, alors un petit flashback, une question pour mes deux invités, parce que alors Claude Belli, dans un magazine Cinéma 71, essaie de prendre un peu de recul sur cette histoire du cinéma et de la bande dessinée, et il dit que finalement, bande dessinée, alors lui, il met la littérature dedans, sont des émanations d'un même besoin fondamental. Alors, messieurs, quel serait ce besoin fondamental ? Ça, vous n'avez pas révisé, mais en même temps, qu'est-ce que... Voilà. En quoi on pourrait se dire que c'est fondamental, ces trois arts, le cinéma, la bande dessinée et la littérature, aujourd'hui ? Votre point de vue, puis je vous dirai la réponse de Claude Belli dans l'article. Alors Julien, peut-être, Julien Savès, qui a beaucoup travaillé à Paris sur avec la bibliothèque Marguerite Yourcenar, je crois.
Duras.
C'est voilà, pas la bonne c'est Marguerite.
Mais du coup, vous avez une grosse habitude d'organiser des événements là-dessus, je crois aussi.
Oui, mais moi j'ai toujours essayé de faire des ponts, en fait, entre le cinéma et la bande dessinée. Ta question est difficile.
Elle est difficile. Mais pourquoi faire des ponts, justement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, ça ?
Bah, c'est des arts, enfin en tout cas le cinéma et la bande dessinée, c'est des arts visuels malgré tout, même si la bande dessinée a quelque chose de littéraire. Il y a une question d'image, donc c'est tout naturel pour moi en fait. Et les auteurs ou autrices, quand tu leur poses la question, souvent ils te disent qu'ils aiment le cinéma, qu'ils aiment des films, qu'ils ont des références quand ils dessinent, qui leur viennent comme ça en fait. Il y a aussi la peinture bien sûr, mais... il y a malgré tout le cinéma, parce que c'est un art peut-être plus récent, plus jeune, mais en tout cas qui compte pour tous ces auteurs, en tout cas.
Ouais.
Et donc c'est tout à fait naturel, je pense, en fait.
Philippe, votre opinion sur le besoin fondamental qu'il y a derrière, c'est de rapprocher ces deux arts, justement.
Alors deux arts, même trois, on a parlé de littérature aussi. Oui, pour moi, c'est la mise en perspective de cette envie de romanesque, parce qu'on était parti de la littérature et du roman au XIXe siècle. La mise en image de ces imaginaires, on voit ces membres de héros, d'une part, qui est aussi présent dans la peinture en grande partie, une peinture qui se renouvelle bien sûr au XIXe siècle. Et puis après, on va passer à cette fin XIXe, début XXe, on va être dans l'art du mouvement, accompagné par la musique, par les effets spéciaux aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une ampleur de la mise en scène qui dépasse peut-être tout ce qu'on pouvait imaginer encore au XIXe siècle, bien sûr. Et ça continue, à mon avis, vers le jeu vidéo, à l'heure actuelle, où tout se conjugue, hein, animation, bande dessinée, cinéma. Il ne s'agit pas de dire qu'un art est supérieur à un autre. Il suffit de dire qu'il y a une historiographie, on va dire, des choses qui se complètent, qui se croisent.
Voilà. Qui se nourrissent.
Qui se nourrissent les unes des autres, avec la mise en scène ou la remise en scène des imaginaires. Mais là, j'ai beaucoup parlé d'imaginaire. Je n'oublie pas que cinéma, bande dessinée, parle aussi de choses qui relèvent du documentaire. Donc, il y a ces deux axes qui se croisent, là aussi.
Voilà. Alors, merci pour vos réponses. Alors, Claude Belli, dans les années 70, il est sur quelque chose... Peut-être on en a besoin aussi aujourd'hui, parce que la question de la réalité devient complexe. Et c'est vrai que la BD du réel existe. On va avoir le prix Tournesol ce soir qui questionne. Et on voit bien que, par exemple, la question des algues vertes, c'est très intéressant, puisque le sujet n'arrivait pas à sortir dans la presse classique. On a la journaliste qui fait une bande dessinée, et on a... Un auteur français qui fait des films, Pierre Jolivet, et qui fait un film militant. Et donc le sujet revient sur la place politique. Donc c'est vrai que ces médias sont intéressants, moi je donne cet exemple-là, dans la question de la politique et de l'appréhension du réel. Mais alors Claude Belli, quand il nous donne sa réponse que je vais vous lire, c'est assez intéressant, c'est l'idée que pour lui, l'art a une vocation essentielle, que la littérature et le cinéma, à un moment donné méconnu, c'est la question du culte du merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, il aurait besoin qu'on développe et qu'on titille sa curiosité. Et ça, c'est important. Et c'est effectivement, c'est d'arriver aussi à communiquer, c'est ce que disait Jean Douchet quand il parlait de cinéma, à communiquer la vitalité. Hein, la vitalité et l'envie de vivre dans un monde qui, aujourd'hui, on a vécu des périodes difficiles quand même. Voilà. Alors, on va évoquer, je vous propose avec Julien, la personnalité de Jean-Claude Mézières. Hein, on a un petit extrait, puisque Jean-Claude, dans le cadre de ce qu'on a créé avec Yves Frémion à Paris, on a essayé de créer un rapport entre cinéma et bande dessinée en partant du fait qu'il existe des documentaires sur le cinéma. cinéma. Il y en a un qui va être diffusé sur Uderzo, je crois, pendant le festival. Et je peux citer un grand documentariste du cinéma, c'est Avril Tambouret, qui a fait des documentaires sur un certain nombre de gens, François Bouc, sur Chaland, un film sur Chaland. Et il avait fait plusieurs documentaires sur Jean-Claude Mézières, sur la création de la page 52 du tome 21 de Valérian, sur la mise en couleur par la sœur de Jean-Claude, Evelyne Tranelet, et un documentaire sur le personnage de Valérian, qui ont été tous diffusés avant le départ de Jean-Claude. Et donc, Julien a participé à un très beau numéro hors série de Tonnerre de Bulles, spécial Jean-Claude Mézières. Et donc, avant de discuter et de rendre hommage à Jean-Claude, on va écouter un extrait de la rencontre qu'on avait organisée au cinéma du Panthéon à Paris.
Je crois que c'est quand je n'avais pas encore réalisé ce que c'était que la réalisation de cinéma que je me serais bien vu réalisateur de film. Et puis depuis que j'ai eu justement la possibilité de voir ce que c'était, je bénis le fait que, que je sois dessinateur et que dessinateur, et je leur laisse tous les emmerdes et les soucis. Parce que c'est un métier de fou furieux et admirable, complètement admirable. Mais non, les dessinateurs, on est tellement libres. On est devant notre feuille de papier avec un crayon, avec un pinceau, avec ce qu'on veut, et on fait ce qu'on veut.
Voilà, alors il faut recontextualiser. On a eu bien entendu une adaptation de Valérian avec Luc Besson, adaptation qui a été un peu contestée, j'ai envie de dire. Et Julien, je vais vous laisser la parole sur les rapports de Jean-Claude et du cinéma, qui sont des rapports un petit peu complexes. Notamment, il y a peut-être des gens qui l'ont piqué des idées aussi à un moment donné. Voilà.
Oui, le truc classique, c'est Star Wars, la guerre des étoiles. Où on dit souvent que Lucas a piqué quelques idées, le casque de Dark Vador, plein d'autres petits points comme ça. Bon, il en a parlé beaucoup de fois, donc tout ça est... on l'a dit, quoi.
On a même une planche, je crois que c'est Jean-Claude qu'on a dans le numéro de Tonnerre de Bulles, c'est Jean-Claude qui avait créé un montage où il mettait la photo et puis la case de BD1,
oui,
je crois.
Oui, il y a eu tout un article que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà. Où il y a eu des...
Et c'est flagrant.
C'est flagrant. Et après, on sait aussi que des gens comme Doug Chiang, qui avait travaillé sur la prélogie, donc pas la trilogie originale, mais la prélogie, il avait chez lui, sur ses étagères, il avait les tomes de Valérian. Donc, tout ça est logique, en fait, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça se nourrit. Donc, lui, il avait une petite blessure par rapport à ça. Bon, après, moi, je pense que c'est normal, en fait, tout le monde se nourrit dans l'imaginaire, et surtout Lucas, il s'est nourri de Flash Gordon, il s'est nourri de plein de choses, de Kurosawa, on le sait, tout ça, on le sait, quoi. En tout cas... Pour Mézières, par rapport au cinéma, il a toujours eu une déception parce qu'il a essayé plusieurs fois de faire de la réalisation, notamment des courts-métrages amateurs qu'il faisait dans les années 50 avec Moebius. C'est des choses qui sont quasiment introuvables, on ne voit pas d'image. Il y a eu un essai de court-métrage de western d'animation, de très peu d'images. Il y a eu un court-métrage de fiction, il y a eu un autre court-métrage en images réelles de western aussi, où on les voyait, c'était tourné en France, à cheval, comme des cow-boys. Et ensuite, il est parti aux États-Unis, il est devenu cow-boy lui-même, et là, il a essayé, avec Christin, de faire un documentaire sur les ghettos noirs, la misère qu'il y avait dans les ghettos. Le documentaire existe aussi, mais a été un peu retouché par la chaîne, donc ça aussi, ça a été une déception. À chaque fois, en fait, il essaye un truc et il y a une déception. Et ensuite, il y a plutôt, ça c'est moins connu, il y a des participations artistiques, on va dire, au niveau storyboard, recherche graphique, tout ça, pour des films comme Un dieu rebelle, en fait, qui est une adaptation de Il est difficile d'être un dieu, le livre classique russe des frères Strugatsky. Et donc le film allemand de Peter Fleischmann, il a fait toutes les recherches graphiques dessus. Bon, ça on le sait moins, mais bon voilà, en tout cas ça, le film est sorti, c'est pas une réussite extraordinaire, mais En tout cas, ça, il a réussi à le faire. Après, il avait travaillé pour Jérémy Kagan sur une adaptation de Barjavel. Bon, moi, ça s'est pas fait. Il y a des choses qui existent. Hein. Vous pouvez les voir, en fait, dans un livre. C'est L'art de Mézières ou Les extras de Mézières. Je ne sais plus le titre exact. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il a travaillé. C'est édité. Enfin, tout ce qui reste, quoi. Ou qu'il a bien voulu montrer, on va dire. Et ensuite, bon, ben, si on peut aller plus loin, ça va être Luc Besson, quoi. La rencontre avec Luc Besson, ça va être surtout le cinquième élément, 97, où il travaille pareil sur des recherches graphiques. Et je pense que l'extrait qu'on a écouté, c'est plutôt à ce moment-là, quoi, où il voulait toujours être réalisateur. Et là, il travaille vraiment en étroite collaboration avec Besson. Il se rend compte que c'est pas simple, surtout qu'il a fait toutes les recherches graphiques, genre avant, 3 ans avant, avec Moebius. Hein. Moebius participait aussi. Et 3 ans plus tard, le film n'est toujours pas fait, quoi. Et donc là, il s'est dit, mais c'est trop long. Et il va utiliser les taxis volants dans un tome de Valérian avant que le film sorte. Enfin, c'est Les cercles du pouvoir. Et donc voilà, c'est à mon avis, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit, c'est juste impossible, quoi. Et l'autre partie que j'ai utilisée dans l'article, dans leur série Mézières, donc de Tonnerre de Bulle, c'est la partie des adaptations de Valérian, qui, pareil, il a essayé en animation depuis les années 70 de faire des adaptations qui sont jamais faites, des pilotes, tout ça. Il y a eu la série de 2005 que je trouve pas forcément réussie, version manga dessinée, qui était aussi produit par Besson. Et après, il y a eu le film de Besson. Enfin, il y a eu une adaptation. On en pense ce qu'on veut, mais il y a une adaptation qui s'est faite.
Et donc, on peut peut-être dire aussi que Pierre Christin, à la fin de Valérian, il y a quand même une belle référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, quand même, avec le monolithe.
Oui, bien sûr.
C'est majeur. Alors,
Christin, pareil, est un grand cinéphile, très porté sur le cinéma. Ouais.
Voilà. Alors, on parle beaucoup d'adapter des bandes dessinées avec des acteurs réels. Est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on voit les polémiques avec le nouvel Astérix, par exemple. Est-ce que le Astérix, par exemple, c'est pas mieux en film d'animation? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, je suis entièrement d'accord, c'est mieux en film d'animation.
Voilà. C'est quoi le meilleur pour vous, le meilleur film d'animation d'Astérix, pour que les gens se replongent devant?
Cléopâtre.
Astérix, ouais. Et Cléopâtre, ouais. Hein. C'est le studio Bellevision, je crois, qui fait ça à l'époque, il me semble.
Oui, alors hein, je me souviens pas.
Voilà. Et Philippe, votre Astérix préféré ou film d'animation adapté de bande dessinée préféré, ça serait quoi?
Vaste question. Non, mais pour reprendre le problème Astérix évoqué là il y a quelques secondes, justement, on se rappelait que le meilleur Astérix au cinéma, c'est Astérix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat avec des vrais acteurs dedans.
Ah oui, paradoxalement.
donc du coup.
Pourquoi du coup alors?
Du coup, est-ce un contre-exemple?
Oui,
je ne sais pas. C'est vrai que quand on évoque la BD franco-belge, moi aussi, hein, je suis d'accord avec vous. Pour moi, l'animation, c'est idéal. D'ailleurs, on va bien voir que Chabat, il revient lui-même pour adapter un autre Astérix mythique, Combat des chefs, série d'animation. Donc, voilà, ça sera intéressant de comparer ces deux approches par Alain Chabat lui-même. Et puis dans d'autres exemples, on comprend bien que, on pense clairement au ratage que peuvent être Gaston Lagaffe ou Spirou et Fantasio. Il aurait sans doute mieux valu aller chercher des studios d'animation pour faire ça.
Voilà. D'après vous, est-ce qu'il y a des BD qui sont vraiment inadaptables au cinéma? Parce que c'est quand même deux. Il y a des théoriciens, Gilles Simon, dans un numéro spécial qui est intéressant, c'est le cinéma action des années 90. Il parle du fait qu'effectivement, il y a un langage propre à la BD qui n'est pas vraiment transférable au cinéma. Alors, est-ce que vous avez en tête des BD qui vraiment, on ne pourrait jamais les adapter? Parce que même en trahissant, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous diriez, vous?
Je reprends la parole. Ouais. Il y a plusieurs choses. Alors, je pense que Gilles Simon avait tout à fait raison quand il a écrit son livre en 90, sauf que depuis, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts, et puis de l'eau en images de synthèse, notamment. Ah, et on se rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, les plus grands succès au cinéma, ce sont des adaptations de BD. Alors évidemment, les films de super-héros, mais il y a quelques autres exemples, plus ou moins réussis. On parlait des algues vertes tout à l'heure. On aurait pu dire à un moment, est-ce que c'est si simple d'adapter les algues vertes au cinéma? Et de fait, ça a donné un excellent film de Pierre Jolivet. Moi, je pense à des choses plus compliquées à mettre en perspective, parce que en version album, c'est d'un chef-d'œuvre absolu. Alors, si je reviens à cette édition de 88 qu'on évoquait tout à l'heure avec Bilal, Cette année, en 88, le prix du meilleur album étranger, il est remis à un certain Maus d'Arch Spiegelman. Imagine-t-on une adaptation un jour, probablement en animation, de Maus? Est-ce que ça serait envisageable ou réalisable? Vaste question. Et puis plus largement, la mise en scène de la Shoah en BD, et donc derrière au cinéma, si on adapte une BD, ça reste toujours une question compliquée. Voilà, pour citer que ça.
Julien, vous avez un avis là-dessus, les BD inadaptables au cinéma?
Alors, j'ai pas d'exemple à vraiment fournir. Peut-être, je dirais, tout ce qui est comic strip, qui sur trois cases, c'est vraiment. Ou alors, il faut vraiment faire une adaptation.
Il faut vraiment étirer le truc, ouais, totalement.
Oui, parce que là, il n'y a pas forcément une histoire complète, c'est des gags. Tout ce qui est en BD de gags, je me dis.
Ça passe mal. Hein. Ouais, on est d'accord sur la question du temps.
Mais par exemple, même Gaston, en fait, oui, c'est difficilement adaptable. Je pense que chacun. Enfin, chaque film qu'on a vu est un échec. Enfin,
oui, c'est pour le moment, le film avec des acteurs, ça n'a pas été ça. Il y a
Paul Bouchna qui a fait. C'est aussi un truc, à cause de ça, je pense. C'est qu'on n'a pas une histoire qui court sur tout le long. Et donc, comment trouver vraiment un truc où il y a du gag en plus à l'intérieur? Peut-être que là où Chaba est fort, c'est qu'il y a à la fois une histoire et qui met un gag toutes les 20 secondes, quoi. Ouais. Et qui l'a compris, en fait. Ouais. Mais je crois me souvenir que Uderzo aimait pas trop le film, bizarrement, en fait. Ça m'avait surpris, mais qui préférait, genre, les adaptations d'après
Et oui, c'est la question du sens de l'humour, parce qu'il y a un humour à la Chaba, il y a un humour Goscinny aussi, la patte Goscinny. Goscinny n'est plus là, Franquin n'est plus là, est-ce qu'on peut toujours faire rire alors que c'était quand même leur ADN, quoi, c'est compliqué. Alors, dans les BD inadaptables, petite question, est-ce que vous vous rappelez de l'adaptation de Popeye qui a été faite et qui est a priori le truc pas adaptable possible?
Avec Robin Williams. Ouais,
ouais. Un film de, vous vous rappelez, Robert Altman.
Oui, parce
que ce film n'existe plus en DVD, je pense qu'il
ça n'a pas été. Qui n'était pas une réussite.
Ça a été un four total. Et alors, j'ai une question à vous poser sur un grand scénariste de la BD qui s'est désolidarisé de toutes ses adaptations. Et quand
Alan Moore.
Et quand il fait Watchmen avec Gibbons, ils disent, on fait un truc, ça sera jamais adaptable au cinéma. Et pourtant, c'est Zack Snyder qui l'a fait. Alors, votre avis, tous les deux.
Il y a une série aussi.
Votre avis sur les adaptations d'Alan Moore au cinéma. Est-ce que Alan Moore a raison de se désolidariser et de dire que c'est totalement une trahison de son œuvre? Moi, je suis assez partagé parce que certains films sont pas mauvais. Mais voilà, ça pose une vraie question, ça, du coup.
Après, c'est que Alan Moore, il s'est même désolidarisé de sa carrière de bande dessinée. Et c'est ça qui est un peu dommage. Il veut plus en parler. Il est passé à la littérature. Pour moi, c'est un dieu total. Mais on n'est pas obligé de boire toutes ses paroles, même si respecte à mort. Et c'est vrai que le regard qu'il a même sur le comics en général, c'est assez dur, quoi. C'est assez pour des gens qui l'ont suivi pendant longtemps, d'entendre ce qu'il a à dire même sur les choses actuelles qu'il lit pas, en fait. C'est dur, quoi. Et après, les adaptations, il les a jamais vues. Toutes celles qui ont été faites de ses films, il n'a jamais vu une seule, donc.
C'est particulier.
Voilà. Le film de Snyder, je trouve bien. Il a changé la fin par rapport à. Mais c'est l'un des films qu'il a le plus réussi, en tout cas.
Philippe, votre avis là-dessus?
Oui, même avis que Julien. Je crois qu'Alan Moore aussi essaye de se distinguer, on va dire, du cinéma, parce qu'il a toujours revendiqué, notamment dans les Watchmen, justement, le fait de vouloir faire des choses à part que seule la BD était capable de reproduire, en quelque sorte. Et donc, a priori, inadaptable par le cinéma. Donc, c'est aussi. Un esprit, on connaît l'esprit d'Alan Moore, assez critique et acide. Je crois que c'est un angle aussi conceptuel et théorique. Voilà.
Alors, pour finir notre table ronde, vos réactions peut-être sur un retour de René Laloux au cinéma. Hein, il y a une restauration de la planète sauvage. Alors, René Laloux, c'est quelqu'un qui disait que l'essence du cinéma, c'était dans le film d'animation, parce qu'on était vraiment maître de créer un univers particulier. Alors, on va avoir la ressortie, déjà en Blu-ray 4K chez Potemkin de la planète sauvage, déjà épuisée, retour au cinéma. Donc là, il travaille avec un illustrateur qui s'appelle Topor. On va la ressortie des maîtres du temps, où il travaille avec Moebius, et il va y avoir la ressortie de Gandhar, où il travaille avec Kaza. Moi, en les revoyant, je me dis c'est peut-être ça vraiment les meilleures créations BD cinéma. Alors, est-ce que vous partagez mon enthousiasme sur René Laloux et son cinéma?
Entièrement d'accord, pour ma part.
Oui, tout à fait.
Voilà. Entre les trois, est-ce qu'il y en a, vous en avez un que vous préférez pour donner envie à nos auditeurs d'aller voir ça? Parce que ça va ressortir au cinéma, il faut y aller.
Moi, j'aime les trois, mais c'est La Planète Sauvage, c'est quand même un chef-d'œuvre.
Oui, chef-d'œuvre absolu.
Alors, pourquoi La Planète Sauvage, messieurs?
Alors là, on a trois heures.
Non, vous avez une, une minute?
Oui, c'est ça, vous avez une minute.
Une minute, allez, pour...
Ouais, c'est tout, c'est l'univers qu'ils ont créé, vraiment l'osmose, en fait. Là, pour le coup, l'osmose entre l'animation, la littérature, d'être allé chercher... c'est plus qu'une adaptation. Là, il a réussi à créer une fusion, en fait, entre BD et cinéma.
Parce qu'on a des œuvres littéraires d'animation. De science-fiction aussi derrière.
Bien sûr.
Vraiment le triptyque, là, qu'on évoquait au début. Et Philippe, Les Maîtres du Temps avec Moebius, ça vous avait parlé à l'époque aussi?
Oui, mais voilà, c'est pareil, même chose, chef-d'œuvre, avec toute une culture science-fictionnelle derrière, etc. Et je crois que du côté du Japon, si on pense à Hayao Miyazaki, même par rapport à Topor, les choses ne sont pas passées tout à fait inaperçues.
Il y a des influences.
Nausicaa, la Vallée du Vent.
Et oui, Moebius, effectivement, Taniguchi. Donc c'est intéressant de quand même aussi de revenir sur ce patrimoine. Heureusement, c'est réédité en Blu-ray, ça ressort au cinéma. Donc, on va inviter nos auditeurs à aller voir tout ça, à soutenir de tout ça et à lire. Alors, est-ce qu'il y a un ouvrage à lire que vous conseillez sur les rapports BD-cinéma?
C'est la question que j'allais poser. Parce que comment poursuivre après ce bel échange un ouvrage ou un site de référence, un endroit où on pourrait continuer à se documenter?
Bonne question.
Quelles sont vos sources?
C'est la colle.
Quelles sont vos sources?
Sur le...
Benoît Peters a peut-être écrit là-dessus, non?
Oui. Sur le blog 9e art qui est fait par la Cité BD, il y a un excellent article qui a été écrit sur les relations ciné-BD avec l'historique aussi des films. Tu es peut-être référé, Stéphane.
Il y a eu un colloque aussi en 2018 à la Cité où on a encore sur YouTube, on peut trouver des traces, mais des traces physiques en termes de livres, c'est pas évident. Alors, dans la revue Papier Nickelé, je vais commettre un certain nombre d'articles autour de ça. Notamment, on va parler de l'affiche de Bilal. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait... Le livre de Michel Simon que tu évoquais, il serait peut-être intéressant de le remettre au goût du jour, sur ces rapports entre 7e et 9e art. Et se dire aujourd'hui que, par exemple, Yann Kounen, qui était très, très novateur dans le cinéma français, et ben maintenant, il fait de la bande dessinée. Donc, peut-être que la bande dessinée, c'est pas pour rien que c'est le 9e art. Et je crois que c'est Dali qui disait que la bande dessinée, c'était l'art vraiment de l'an 3194 et que ça allait supplanter tous les autres. Donc, on a encore de beaux jours devant nous, messieurs. Voilà.
Sera-t-on là pour le voir?
Espère, mais voilà, enfin peut-être pas. Mais merci en tout cas d'être venu pour ce plateau.
Merci.
Voilà.
Merci pour ce bel échange, ce passage et ces fusions entre 7e et 9e art. C'était l'instant Actua BD. Merci Stéphane. Et puis bah voilà, bon festival à vous, bonne continuation dans tout. C'est 2 jours et demi. Voilà, vos baskets vont être usées, mais vos têtes pleines de beaux souvenirs, j'espère.